Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Le gouverneur du Nord Kivu sensibilise les Wazalendo au respect des droits humains, du droit international humanitaire et de la citoyenneté. Ce, avec l'appui de la MONUSCO, objectif réduire les exactions attribuées à certains Wazalendo. Province Maniema, le chef du village Lubile vit en cachette depuis près de deux semaines. Selon lui, le conflit foncier entre son village et le village Munzunzu voisin serait à la base de cette situation. Le gouverneur intérimaire du Maniema dit reconnaître ce conflit et promet d'échanger avec son successeur afin de trouver une solution. Et puis, Matata Ponyo dit non à la révision constitutionnelle et demande la suppression de la CENI. Le président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement fait ses recommandations à l'issue du conclave de son parti organisé ce week-end à Kinshasa. Il est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Le gouverneur militaire sensibilise les volontaires pour la défense de la patrie, ceux qu'on appelle Wazalendo. Ils sont sensibilisés au respect des droits humains, du droit international humanitaire et de la citoyenneté. La MONUSCO est de la partie pour insister sur l'importance pour ces volontaires de respecter les droits de l'homme. Mais pourquoi mener une telle campagne aujourd'hui, Rosalie Zawadi?
Cette initiative vise à réduire les exactions attribuées à certains Wazalendo par les passés. Le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwa Mikuba, a conduit des séances de sensibilisation à Goma, Minova et Bweremana, soulignant l'obligation pour tous ces volontaires de respecter les droits humains.
Le commandant suprême a insisté sur les comportements des Wazalendo, sur les changements, que dès lors qu'ils sont supplétifs au FRDC, ils appartiennent à l'État. Et donc, ils doivent respecter les lois de la République.
Le chef de bureau de la MONUSCO à Goma, Omar Aboud, a également participé à l'une des séances de sensibilisation, réaffirmant l'engagement de la mission à soutenir les efforts du gouvernement congolais en matière de protection des droits humains.
On a discuté les sujets de droits de l'homme, de droits humanitaires internationaux, de conduite et discipline, et aussi la protection des enfants. Et c'est très important qu'on garde ces principes entre nous, surtout quand on est dans un milieu où il y a beaucoup des civils.
Les autorités provinciales se félicitent de l'impact positif de cette campagne de sensibilisation. Des éléments indisciplinés au sein des Wazalendo ont été arrêtés par leurs propres responsables et remis à la justice militaire, démontrant une volonté interne de renforcer la discipline et le respect des droits humains. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, les acteurs sociopolitiques, notables et chefs coutumiers de cette province recommandent à l'État congolais de renforcer son autorité dans les zones occupées par les groupes armés pour permettre la mise en œuvre du programme PDDRCS. Ils l'ont fait savoir ce week-end au terme d'un atelier de deux jours de réflexion sur les conditions politiques nécessaires de redynamisation de ce programme pour la stabilité de la province de l'Ituri. Au cours de cette rencontre, initiée par la section des affaires politiques de la MONUSCO, demande aussi au gouvernement de renforcer la sécurité aux frontières et d'assainir le climat des affaires. Ézéchiel Mouzalia.
C'est au regard de la persistance de l'activisme et des groupes armés en province que cet atelier des réflexions sur des conditions politiques à mettre en œuvre pour la relance du PDDRCS a été organisé. Des discussions ont tourné notamment autour des mécanismes de la restauration de l'autorité de l'État, la circulation d'armes à feu, ainsi que de l'exploitation illicite des ressources naturelles qui continuent à alimenter les forces négatives. Face à ce défi, les participants demandent au gouvernement de renforcer son autorité dans les zones sous contrôle pour pousser les groupes armés à déposer les armes. Luc Malembe est un acteur politique de la place.
Cette possibilité ne peut se réaliser que si l'armée a déjà frappé tous les groupes armés, les a anéantis et les force à remettre.
Pour le député provincial élu d'Arou et un des facilitateurs du jour, Étienne Ounega Egel, la restauration de l'autorité de l'État doit inclure aussi le renforcement du pouvoir des chefs coutumiers pour leur permettre de sensibiliser leurs fils et filles qui ont pris les armes à les rendre.
Il faudra que ces détenteurs de pouvoir d'État puissent avoir une certaine autorité qui se décline sur l'ensemble des entités qu'il gère, de manière à ce que du PDDRCS puisse se dérouler dans de très bonnes conditions.
Le gouvernement provincial et la MONUSCO encouragent cette démarche pour la consolidation de la paix et soutiennent ces résultats qui vont permettre à l'Ituri de recouvrer sa stabilité. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema, le chef du village Loubilé, victime de menaces de mort. Nous sommes à 145 km de Kindu, dans le groupement Sangé, territoire de Pangi. Shinda Nobueta Wakola vit en cachette depuis près de 2 semaines. Selon son témoignage, le conflit foncier entre son village Loubilé et le village Munzunzu voisin serait à la base de ce conflit. Pourtant, dit-il, la justice a déjà tranché sur ce dossier. Le chef Shinda Nobueta Wakola explique. Il est joint par Florence Kizalunga.
Tout a commencé lorsque le gouverneur sortant Idrissa Mangala a signé l'arrêté transformant mon village Loubilé en un centre sous l'autorité du village voisin Munzuzu et a les droits coutumiers sur mon village. Quand j'ai appris ça, j'ai saisi la cour d'appel de Kindu. Après l'examen, la cour a annulé cette décision du gouverneur en notifiant le gouvernorat et toutes les parties et l'administrateur a eu sa copie, mais malheureusement, il n'a pas pris à compte cette décision de la justice. L'administrateur a tenu mordicus à sa décision de transformer mon village. Il s'est fait accompagner par la police et la jeunesse du village Munzuzu vers 2h du matin. Je me suis échappé. Ils ont tout brûlé et cherché à me tuer. C'est pourquoi je me cache. Même si je n'ai pas étudié, mais je sais que même la Constitution ne reconnaît pas le centre. Elle reconnaît village, groupement, territoire, secteur, commune, ville. Alors, d'où vient le centre que le gouverneur sortant a motivé dans sa lettre?
Contacté, le gouverneur intérimaire sortant, aujourd'hui sénateur, reconnaît ce dossier qui, selon lui, date de quelque temps. Afani Idrissa Mangala promet d'échanger avec son successeur à ce sujet. Il fait savoir que cette situation nécessite une nouvelle cartographie démographique. Kasaï Oriental, signalant la clôture hier dimanche à Mukamba, 90 km de Mbujimayi, du symposium sur le développement de Kabeakamwanga. Ces travaux de 3 jours ont été organisés par les fils et filles de cette entité administrative en vue de rechercher les voies et moyens pour développer le territoire de Kabeakamwanga. Esther Ndalafina.
Le territoire de Kabeakamwanga est l'un des 5 territoires que compte la province du Kasaï Oriental. Son chef-lieu Kenankuna est situé sur la RN1, axe Mbujimayi-Kananga. Malgré ces terres arables, la population croupit dans la misère. Raison pour laquelle les fils et filles de ce territoire se sont réunis pour examiner la situation. Explication de Gabriel Kasonga, président du symposium.
Après avoir constaté que les choses n'évoluaient pas, nous nous sommes mis ensemble et nous avons mis tout le monde d'accord pour que nous parlions à nous-mêmes en se regardant dans les yeux.
Les 150 filles et fils du territoire de Kabeakamwanga qui participent à ces travaux de 3 jours ont identifié certaines causes qui empêchent le développement de cette entité administrative, dont voici.
La mentalité d'abord, mais nous venons de constater que beaucoup d'argent a été déjà versé à Kabeakamwanga, mais que certains fils s'en sont appropriés pour leur bien. Les causes, c'est l'esprit aussi de nos chefs coutumiers qui rendent très difficile l'acquisition des terres par ceux qui veulent venir investir. Le problème, c'est nous-mêmes qui n'acceptons pas ceux qui viennent vers nous.
Signalons que les participants à ces symposiums ont formulé quelques recommandations à suivre pour développer les territoires de Kabeakamwanga. Esther Nalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo. L'archidiocèse de Kisangani s'est dit préoccupé par l'assainissement de l'environnement. L'évêque auxiliaire en a donné la preuve samedi en mobilisant les fidèles chrétiens au ramassage des déchets et au balayage des environs immédiats du marché central. Parmi les participants à cette activité, des professeurs d'université, des fidèles chrétiens ainsi que le coordonnateur provincial de l'environnement. Mais qu'est-ce qui a poussé l'église catholique de Kisangani à s'investir aux travaux d'assainissement? Jacques Moukonkole.
Mouillé en soutane noire et coiffé de sa calotte, Monseigneur Léonard Ndjadin Djaté a mis au-dessus de son costume épiscopal un gilet vert aux rayures. Balai long aux mains garnies des gants, il a balayé et ramassé des sachets et autres ordures le long de la route et dans quelques avenues du marché. À ses côtés, quelques fidèles mobilisés pour cette fin. Selon lui, l'archidiocèse de Kisangani répond à l'appel du pape François pour la protection de notre maison commune, à savoir l'environnement. Il demande à la population de poser des gestes verts.
Ce sont des gestes qui vont dans le sens de la protection de la nature et qui vont dans le sens de l'humanisation de relations interpersonnelles et par rapport aux dirigeants, c'est lancer ce plaidoyer, un message fort pour qu'ils prennent à cœur la problématique écologique, qu'ils mettent des moyens pour assainir notre ville.
Cette initiative est saluée par bon nombre de personnes, à l'instar du coordonnateur provincial de l'environnement. Félicien Malou promet la contribution officielle de son service à ce projet.
Il faut de leur trouver un site aussi pour les décharges, afin que ces déchets soient traités et pourquoi pas recyclés.
Signalons qu'en rapport avec cet appel du pape François, l'archidiocèse de Kisangani va bientôt créer un bureau diocésain pour la pastorale écologique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Congo central, sensibilisation des filles élèves malentendants du complexe scolaire Espérance de Matadi sur l'hygiène menstruelle, activité menée par le réseau des jeunes reporters de l'UNICEF, U-Report, en marge de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, journée célébrée le 28 mai de chaque année. À cette occasion, la coordination des filles U-Report a appelé les enseignants de ces élèves malentendants à s'approprier les notions de la santé sexuelle et reproductive afin d'éviter les grossesses non désirées. Le compte-rendu de Nana Plurich Mambou.
Cette sensibilisation a ciblé toutes les filles malentendantes en âge de procréer qui fréquentent les complexes scolaires Espérance, une école des sourds muets de la ville de Matadi. Menée par les clubs de filles U-Report de l'UNICEF, la dite sensibilisation a porté sur les calculs des cycles menstruels, l'emploi de serviettes hygiéniques et plusieurs autres notions sur la santé sexuelle et reproductive. La coordonnatrice du club des filles e-report qui parle de l'objet de cette activité invite les enseignants des malentendants à insérer les notions de la santé de la reproduction dans le programme des cours. Watrid Lututungenki.
Nous avons fait cette activité avec objectif d'expliquer aux filles que le règle n'est pas un sujet tabou et rappeler à leurs enseignants de toujours les enseigner sur ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Puisque tant qu'adolescentes qu'elles sont, elles doivent s'abstenir pour éviter des grossesses non désirées.
Les complexes scolaires Espérance, seule institution qui encadre les enfants malentendants à Matadi, est sur le point de fermer à cause du manque d'appui par l'État. À l'occasion de cette activité, Watri Dingeng y appelle le nouveau gouvernement à penser à cette école.
Nous faisons appel aux autorités qu'elles puissent regarder un peu cette école, puisque ces filles, c'est vrai qu'elles sont sourdes, mais elles ont des compétences, elles ont des capacités de travailler dans la société.
Signalons que e-report prévoit d'autres activités de cette envergure dans d'autres écoles de Matadi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, procède jusqu'au 11 juin prochain à la répartition des droits d'auteur, des auteurs-compositeurs, éditeurs ou producteurs et des auteurs dramatiques. Cette opération vise 206 sociétaires et c'est pour le deuxième semestre de l'année 2022. Des recettes provenant des provinces du Haut-Katanga, Congo central et Kinshasa. Le directeur général intérimaire de la SOCODA, Joé Mondonga, explique la symbolique de cette opération au micro de Jean-Marc Matouaki.
Cet exercice est très très symbolique dans la mesure où, pour la première fois depuis 13 ans de son existence, que la SOCODA procède au paiement des droits d'auteur des artistes et créateurs en observant les normes universelles de la gestion collective des droits d'auteur en matière de la répartition des droits. Ceci est le fruit des réformes opérées en la matière. Parlant de cet exercice, la répartition donc question. À l'issue des opérations de sondage, comme vous avez entendu parler, et des collectes de programmes des œuvres d'esprit auprès des utilisateurs d'œuvres d'esprit dans les provinces du Haut-Katanga, pour la première fois, Congo central et la ville de Kinshasa. Les données qui devaient nous provenir des provinces du Sud-Kivu et de la Tchopo ne nous sont pas parvenues dans les délais requis pour des raisons indépendantes de notre volonté. Elles seront exploitées à la prochaine répartition, c'est ça le principe. D'où la SOCODA va rémunérer le droit d'exécution publique de 206 bénéficiaires. 206 bénéficiaires de droits, des œuvres musicales et dramatiques.
Sport à présent. Jeux olympiques de Paris 2024. La boxeuse Brigitte Mbabi s'est qualifiée. La pugiliste congolaise a obtenu son ticket hier à Bangkok au dernier tournoi qualificatif international en battant la Cap-Verdienne Ivanusa Moreira par arrêt de l'arbitre au troisième round dans la catégorie de 66 kilos dames. Au total, Brigitte Mbabi a remporté 4 combats dans ses éliminatoires pour s'adjuger le précieux sésame. Au total, 3 Congolais vont représenter la RDC en boxe aux Jeux Olympiques de Paris. Il s'agit de Marcela Sakobi, Peter Kabeji et Brigitte Mbabi.
Actualité internationale.
La saison des pluies a commencé au Togo. Plusieurs épisodes de fortes précipitations ont déjà été enregistrés dans le sud du pays. À Lomé, la capitale, plusieurs zones ont connu des inondations. L'agence de météorologie du Togo prévoit des fortes pluies pour le mois de juin et appelle à la vigilance des populations des zones vulnérables.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Augustin Matata Ponyo, président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD. Il s'exprime sur les résolutions formulées à l'issue du conclave de son parti, organisé du jeudi 30 mai au samedi 1er juin à Kinshasa. Parmi les résolutions phares de ce conclave, le LGD, formation politique de l'opposition, dit non à la révision constitutionnelle et demande la suppression de la CENI. Matata Ponyo est avec Alain Rong.
Monsieur Matata Ponyo-Mapone, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce conclave maintenant?
Écoutez, il était important, après 2 ans d'activité politique, de pouvoir faire le bilan de nos actions. Et nous avons fait coïncider ce conclave avec les 2 ans d'existence politique. Il était question de pouvoir évaluer nos faiblesses, nos forces, pour corriger les erreurs et consolider nos performances. Et c'est ce qui a été fait, mais comme toujours, à l'occasion de ce type de situation, il est aussi indiqué de faire des projections pour voir quelle est la voie à suivre afin d'atteindre l'objectif principal qui est assigné à un parti, comme vous le savez, c'est de prendre le pouvoir pour garantir le bonheur du peuple. Voilà donc l'objet principal de ce conclave.
Qu'est-ce qu'on peut considérer comme les grandes conclusions de ce conclave?
Ce conclave a permis d'abord de faire le point sur le processus électoral et nous avons considéré ce processus comme état chaotique. C'était un échec cuisant du pouvoir dans l'organisation des élections. En effet, ces élections n'étaient pas en réalité les élections, c'était un processus de nomination des personnes dont la plupart n'étaient pas élus. Ceci nous a conduit à faire une recommandation qui est la suppression pure et simple de la CENI. Pourquoi? Parce que la CENI a été créée pour qu'elle constitue une structure indépendante. Aujourd'hui, on voit très bien que la CENI n'est pas indépendante. Elle est inféodée au pouvoir. Deux, la CENI a été créée pour des élections transparentes et équitables. On voit très bien que la CENI n'est pas à mesure d'organiser des élections transparentes et équitables. Et donc, la CENI a échoué dans sa mission. Et nous avons proposé une solution. Il faut que la CENI soit remplacée par une structure indépendante et de grâce par une structure internationale. Ce n'est pas question de souveraineté nationale, parce que nous avons dit, nous prenons l'exemple, la protection des citoyens et de biens et services dans un pays, c'est une question de souveraineté. Mais parce que l'État congolais n'est pas à mesure de jouer cette fonction de manière tout à fait pleine, mais elle fait recours notamment aux forces armées extérieures. Et dans le cas d'espèce, l'État congolais, à travers la CENI, n'est pas capable d'organiser les élections qui soient transparentes, qui soient équitables. Autant recourir à une structure indépendante pour donner la chance aux Congolais d'aller voter en 2028. Prenons carrément une structure internationale indépendante. Et ça coûterait d'ailleurs moins cher. L'une des recommandations phares du conclave, c'est celle qui consiste à s'opposer à toute révision constitutionnelle. Pour le conclaviste, le problème dans lequel se trouve la RDC aujourd'hui ne procède pas des problèmes constitutionnels, parce que la constitution elle-même n'est pas appliquée.
Parlons maintenant de l'actualité. Vous le savez, il y a un gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement Judith Suminwa. Quelles pourraient être les priorités pour ce gouvernement, les défis ainsi que les recommandations?
D'abord, je félicite tous les membres du gouvernement qui ont été nommés tout récemment. Je félicite aussi la première ministre qui est appelée à diriger cette équipe. Mais le conclave a dit ceci, tout en souhaitant la chance au gouvernement. Ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. En économie, la confiance joue un rôle clé. Le premier élément qu'il faut faire, c'est le rétablissement du cadre macroéconomique, qui est représenté par 2 indicateurs clés, les taux d'échange et le taux d'inflation. Bon, il y a d'autres indicateurs, mais je préfère à ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique, retenir cela. Vous savez, j'ai gouverné en tant que Premier ministre pendant 5 ans. J'ai été ministre des Finances pendant 2 ans. Mais le taux d'échange est resté stable. Aujourd'hui, M. Matata est un peu comparé au symbole de la stabilité du taux d'échange et des prix intérieurs dans ce pays. Mais le deuxième conseil que je dois donner au gouvernement, c'est d'investir dans les infrastructures, comme je l'ai fait aussi quand j'étais Premier ministre. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est très bien. C'est des politiques conjoncturelles. Mais l'investissement, ce sont les politiques structurelles. Ça, c'est ce qui permet de créer des richesses.
Monsieur Matata Pognomapon, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, Alain.
Le président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD répondait aux questions de Alain Rungmushinj. C'est la fin de ce journal mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de rester des nôtres.